radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux. Découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application.
Une histoire particulière. C'était une bien curieuse histoire qu'Alexis Charniguet et François Test nous ont racontée hier dans le premier épisode. C'est l'histoire de Marthe Robin, qui a eu, on peut le dire, une vie étrange et extraordinaire à la fois. Paralysée, quasi aveugle, elle connaît ses premières visions mystiques en 1921 et à partir de 1930 ne se nourrit plus que d'une hostie par semaine. Un peu plus tard, elle reçoit même les fameux stigmates. Jusqu'à sa mort en 1981, plus de 100 000 fidèles lui rendront visite pour partager ses prières ou recueillir ses conseils. Déclarée vénérable en 2014, elle semblait destinée à rejoindre sans difficulté les saints de l'Église catholique. Mais un moine belge a mené une enquête. Alors, sainteté ou supercherie ?
Il y avait foule, la grande foule, cet après-midi dans le petit village de Châteauneuf-de-Galaure, près de Valence, dans la Drôme, pour les obsèques de la petite sainte Marthe Robin, morte la semaine dernière à l'âge de 79 ans. Elle était ce qu'on appelle une stigmatisée. Tous les vendredis apparaissaient sur ses pieds et ses mains les blessures du Christ crucifié, c'est du moins ce qu'affirment ses admirateurs. Pendant un demi-siècle, paralysée et aveugle, les jambes repliées sous elle, Marthe Robin s'est nourrie exclusivement d'hosties. Des milliers de catholiques de toute nationalité venaient régulièrement la consulter. On a même construit une luxueuse chapelle en face de sa ferme à Châteauneuf-de-Galaure.
Marthe Robin, une sainte invention. Par Alexis Charniguet et François Test. Deuxième épisode, la vérité sans concession.
Je suis allée deux fois dans la chambre de Marthe pour lui demander des conseils. Pour moi, Marthe était une personne comme nous, toute simple, qui a eu la vie certainement dure.
Pour vous, c'est presque une sainte ?
Oh oui, c'en est une. J'ai de la famille à Paris qui m'a parlé de la sainte des temps modernes, Marthe Robin.
La beauté de la procédure pour vérifier la sainteté d'une personne. Enfin, on voit la sagesse de l'Église. Elle commence par regarder la vie de la personne à partir de témoignages, des faits, des personnes qui l'ont connue. Et à ce stade se prononcent des experts, des historiens, des médecins, des psychologues, des personnes qui sont reconnues dans leurs compétences scientifiques, qui vont analyser toute cette masse de documents. Après se prononcent des théologiens pour examiner comment la personne a vécu sa vie chrétienne, sa foi, son espérance, la charité. Et ce premier processus, cette première phase, aboutit à la reconnaissance de l'héroïcité des vertus. Premier stade pour Marthe Robin, ça a été acquis en 2014. Mais ça ne suffit pas. Voilà pourquoi il y a cette deuxième phase qui s'appelle la reconnaissance d'un miracle. Et le miracle est vu comme le doigt de Dieu dans l'affaire. Pour 90% des cas, ce sont des cas de guérison. Par exemple, il y a un cas, une cause qui a abouti il n'y a pas tellement longtemps. Il y a carrément eu un pancréas qui a repoussé.
Démarche qui exclut de fait les phénomènes extraordinaires que l'on prêtait à Marthe, comme l'inédit, les stigmates.
Effectivement, tous ces phénomènes extraordinaires n'apportent pas un point de plus dans un procès en canonisation. Au contraire, c'est plutôt un obstacle. La sainteté ne vient pas des phénomènes extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent être provoqués par d'autres causes médicales, psychologiques, préternaturelles. Voilà pourquoi tous ces phénomènes extraordinaires ne sont pas des critères de sainteté.
Comme l'indique Sophie Gay, Marthe semble promise à l'honneur des autels et un dossier en vue de sa sanctification est établi. Mais, en 1988, Conrad de Mester, un moine membre de la commission d'enquête, découvre d'étranges incohérences dans la vie exemplaire de Marthe. Il révèle, entre autres, que la mystique, dans ses écrits, a plagié sans vergogne une trentaine de saints. Mais comment remettre en cause Marthe alors que son souvenir fédère des fidèles de bonne foi? Autant de questions que pose l'enquête de Conrad de Mester, publiée aujourd'hui par Renaud Escandre, frère dominicain et directeur éditorial des éditions du Cerf.
Il a fait partie du procès de béatification au titre d'expert. Donc voilà, donc il a joué un rôle très important dans ce procès-là. Il a donné ses conclusions et il n'a reçu aucune réponse du Vatican, ce qui l'a un peu peiné, faut le dire, et puis l'a poussé à continuer ses investigations. Il a continué cela de la main. Vous savez, Conrad de Mester, moi je l'ai rencontré une ou deux fois seulement, c'est un peu la bête de travail, c'est l'historien acharné qui travaille, pas 24 heures sur 24, mais presque, sur les archives, d'une manière lancinante. Et donc, il a continué son investigation en disant, bon, ben voilà, si le procès de béatification continue, si vous savez qu'on a reconnu les vertus de Marthe Robin, il s'est senti libre, lui, de continuer ses recherches et de livrer au grand public.
Marthe prétend ou déclare avoir rencontré la Vierge.
À plusieurs reprises, puisque les apparitions de la Vierge ou du Christ lui sont pas quotidiennes, mais assez fréquentes. Oui, tout à fait. Et c'est l'enjeu de Conrad, de montrer, par l'étude des textes, là, pour le coup, mais c'est même pas de la graphologie, l'étude des textes, le plagiat qui montrerait que ces apparitions, ont été, pour le coup, simulées.
Des apparitions simulées, et peut-être aussi plus connues et plus graves, des mensonges concernant sa maladie. Rappelons que Marthe aurait été paralysée, aurait été victime frappée par la cécité et aurait vécu dans le cadre de l'inédit qui est une absence totale de nourriture.
Je rappelle que ça, ce que vous venez de dire, c'est partagé par la plupart des croyants, et moi en particulier. J'ai toujours appris que Marthe n'avait jamais bougé de son lit et n'avait jamais mangé sinon l'hostie tous les vendredis. C'est ça, si vous questionnez les gens, c'est ça qu'on sait de Marthe Robin. Or, ce que j'ai appris en lisant Conrad, c'est que justement il n'était absolument pas question de cela. Et surtout, ce que j'ai appris dans le débat que le livre a provoqué chez les partisans de Marthe, c'est qu'eux-mêmes savaient que Marthe mangeait et que Marthe bougeait. Voilà.
Le père de Mester s'est élevé contre
Sophie Gay.
Cette image monolithique qui a fini par s'imposer sur Marthe. Vous savez, plus les années passent, plus on simplifie aussi les choses et on accentue plus qu'une ou deux choses. On perd toute la richesse d'une personne. Et donc le père de Mester a pointé des faits de la vie de Marthe déconcertants, qui ne cadraient pas avec ce que le père Finet disait d'elle. Le père Finet a beaucoup insisté sur... Marthe ne bougeait absolument pas, Marthe ne mangeait absolument pas, ne dormait. Absolutiser une personne, c'est perdre de sa richesse et de sa réalité, de sa vérité.
Jean-François Colosimo, directeur général des éditions du Cerf.
Lorsque Conrad emploie le terme de fraude, cette fraude, évidemment, on ne peut pas simplement l'attribuer à Marthe seule. Cette fraude, elle doit bénéficier de tout un milieu. Et elle va bénéficier dans tout un milieu. Ce que montre l'enquête détaillée de Conrad de Mester, c'est que non seulement il y a eu un regroupement, je dirais, des fabricateurs de la fraude, mais qui plus est, à côté de cela, on a mis à l'écart tous les gens qui pouvaient raconter une autre histoire. Parce qu'il faut que le mythe persiste, soit construit, soit validé. Or, dans cette mise à l'écart, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'il y a d'autres gens qui s'agrègent. Et là, j'en suis désolé, mais ça participe tout à fait de la volonté du pape François d'établir la vérité sur toutes ces affaires, puisque, je veux dire, on Un chrétien ne craint pas la vérité, n'est-ce pas? Mais le père Finet est aujourd'hui accusé, post-mortem, je dirais, de désordre sexuel. Moi, je n'attribue pas ça à Marthe, mais je dis que malgré tout, n'est-ce pas, que finalement les grands témoins se révèlent à la fin quand même assez douteux sur d'autres domaines, dans d'autres questions, sur leurs mœurs même, montrent qu'on était dans un climat d'exaltation, dans un climat d'effusion, qui n'avait pas grand-chose à faire de la vérité.
Dieu est bon, Dieu est Père, Dieu nous aime, Dieu compatit et adoucit toutes nos souffrances. Si nous le laissons faire, il saura remplacer et remplacer au centuple tout ce que nous avons perdu, tout ce qu'il a voulu nous prendre par des biens immensément meilleurs. La douleur, la souffrance ne vient pas du ciel, mais le secours en vient, le bonheur en est. C'est daté du 12 janvier 1930. Marthe était âgée de 28 ans à l'époque. C'est donc un très court extrait de son journal.
Conrad de Mester mène une enquête, comme une enquête policière. Donc il réunit des indices et il apporte des preuves. Il faut bien comprendre, c'est un livre argumenté. Un, il montre que les textes où Marthe Robin raconte son aventure mystique sont des plagiats. Et là, la démonstration, elle est implacable. Deuxièmement, il montre que les textes qui sont censés avoir été dictés par Marthe Robin, puisqu'elle est censée ne pas pouvoir écrire, beaucoup d'entre eux sont de sa main et que, qui plus est, elle varie d'écriture pour, en quelque sorte, donner de l'existence à des secrétaires parfaitement inconnus. Le troisième point, c'est que lorsqu'il confronte, parce qu'il arrive à trouver les textes contemporains des débuts de Marthe, de gens qui sont très proches d'elle, dans ces textes ne figure aucun des événements miraculeux que Marthe va réécrire dans ses essais d'autobiographie. Et que là, il y a donc une discordance fondamentale.
Alors le père de Mester a fait un très gros travail. Le souci, c'est que en fait, il l'a accusé de plagiat. Nous parlons plutôt de réminiscence de lecture, parce qu'à cette même époque, Marthe lisait. Et Marthe se souvenait des lectures qu'elle faisait aussi pour comprendre la vie spirituelle en elle. Et ces lectures l'ont aidée. On se construit à partir des lectures qu'on fait, et à partir de ça, on fait son miel. Et une petite chose, ce tome de ce journal qui fait 400 pages, les réminiscences à des auteurs mystiques ne représentent que 8% de ce journal. 8%.
Qui ne constituerait pas donc une fraude mystique?
Pas du tout.
Guillaume Cuchet, historien.
Ce qui me frappe, c'est pas tant le plagiat. L'accusation de plagiat, j'allais dire, ça fait partie, d'une certaine façon, de l'histoire de la mystique, des plagiaires. Il y en a partout dans l'histoire de la mystique. On passe son temps à se recopier, consciemment ou inconsciemment. Et j'allais dire, c'est presque originel. C'est ce qu'on appelle la pseudépigraphie dans l'exégèse biblique. C'est-à-dire, est-ce que Saint Matthieu, c'est Saint Matthieu? Est-ce que Isaïe, c'est Isaïe? Non. Et pour autant, l'Église catholique considère que l'inspiration n'est pas incompatible avec des manipulations de ce genre, de type pseudépigraphique. Donc pour moi, la question du plagiat est un peu secondaire. Ce qui est plus problématique, c'est la fraude, effectivement, en tant que telle, c'est-à-dire la tromperie consciente. Là, ça pose plus de problèmes sur le plan de l'héroïcité des vertus, effectivement. Mais elle a été fabriquée par son époque et par son milieu. Elle est créaturante et créaturée, si vous voulez. Ça marche dans les deux sens. Et donc, de dire, bon ben voilà, c'est une faussaire, plagiaire, qui a trompé son monde, mais on vient d'éventer le secret. Ça, il y a probablement une part de vérité, il peut y avoir de la manipulation, etc. Mais on n'en a pas fini avec Marc Robin pour autant, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a une époque, il y a un milieu, il y a des effets de projection. Et après, qu'ensuite, ceux qui y ont cru, les fervents, soient obligés de trouver des zones de repli, des requalifications à la baisse ou à la hausse de leur ferveur d'antan, ça arrive souvent dans l'histoire du catholicisme quand il y a des phénomènes de ce genre. C'est-à-dire que c'est difficile d'atterrir brutalement, donc on cherche un peu des solutions intermédiaires.
Vous vous retrouvez avec une femme qui est censée converser avec Dieu sur une base quotidienne, hebdomadaire, qui est censée porter sur son corps les marques du Golgotha, qu'elle draine des milliers, des centaines de gens, qu'elle inspire un mouvement tout à fait respectable, les foyers de charité qui se diffusent dans le monde entier, qu'elle reçoit la visite des philosophes, des journalistes, qu'elle reçoit la visite des évêques. Ah, son enterrement est grandiose, n'est-ce pas? Alors quand vous en êtes là, évidemment, il n'y a pas de marche arrière. Voilà. Je veux dire, la vérité, elle devient très pénible. Elle devient très pénible parce qu'elle force à réviser, finalement, quoi? La différence entre la croyance et la foi.
Dans toute enquête, il y a un lieu du crime. La mort de Marthe semble montrer que le rideau se déchire, où on la trouve au pied de son lit, chaussée de chaussons usés.
En fait, la mort de Marthe reste un mystère. Un mystère, elle était donc, si vous lisez le livre de Conrad, il est allé lui-même sur les lieux du crime, j'allais dire, sur les lieux de la... Parce que Marthe a changé de chambre, il nous redessine en fait la configuration de la pièce avec les deux portes que le père Finet fermait à clé le soir, qu'il réouvrait seulement le matin. Et on retrouve Marthe au pied de son lit, alors qu'elle ne se levait pas, voilà, au pied de son lit, avec des chaussons seulement usés sur le haut de la plante des pieds. Et donc, c'est là où on se rend compte que Conrad, quand il a un os à ronger, il le rend jusqu'au bout. Il va donc étudier ses chaussons, les essayer, se rendre compte que, en fait, ils étaient usés que sur le bout du pied. C'est qu'en fait, Marthe, elle était véritablement handicapée, ça pour le coup, elle, on ne met pas en doute le... Mais elle pouvait se déplacer sur le dos, donc si vous vous déplacez sur le dos, il fait lui-même l'expérience dans la chambre, si vous vous déplacez sur le dos, vous n'abîmez que le bout de vos sandales, et puis il trouve bien entendu cette espèce de bassine avec ces restes de défécation, enfin voilà, mélangés, donc voilà, qui prouve que Marthe mangeait un petit peu quand même, parce que voilà. Donc il y a pas mal de choses qui font que toute cette scène... qui a vite été figé par le père Finet. Il a interdit absolument qu'on rentre. Enfin, il y a eu pas mal de... Tout a été bloqué le jour même de la mort. Eh bien, cette scène-là laisse beaucoup, beaucoup de questions en suspens.
Pierre Vignon, prêtre.
Il y a une action divine, prépondérante, dans la vie de Marthe Robin. C'est celle-là qu'il faut mettre en avant. Parce que c'est ça qui la fait vivre, c'est ça qui lui donne sa joie, c'est ça qui lui permet de supporter le reste. Mais la contrepartie, c'est que elle porte les peines, surnaturelles. Donc ça relève du monde des anges, ceux qui sont dans la gloire de Dieu et ceux qui sont déchus, donc le monde diabolique. Et il y a eu une telle action dans la vie de Marthe Robin qui est tout à fait constatée. Je suis parfaitement conscient que de parler du démon de la part d'un prêtre dans une cause de béatification au début du XXIe siècle, je vois tout à fait culturellement les problèmes que ça pose. C'est pas une raison pour pas en parler.
Car plusieurs témoins affirment avoir vu le diable agir dans la maison de Marthe Robin, avoir vu des formes rampantes, ou alors avoir entendu des bruits incroyables dans sa chambre, provenant de sa chambre.
Tout à fait. On est dans le cadre d'une âme donnée à Dieu qui accepte de porter les souffrances des autres, et en particulier les souffrances infernales des autres. Et donc, dans ces moments d'extase, en particulier ceux de sa passion, elle, qui était paralysée, se soulevait de son lit, était projeté contre le meuble qui était à côté. Moi, mon oncle prêtre, qui était un berger du Vercors d'origine avant de devenir prêtre, qui était costaud, l'a tenu, comme il y avait plusieurs dizaines de témoignages, l'a tenu fermement dans ses bras. C'est une force surhumaine. Vous avez cette personne impotente qui va se faire, et vous pouvez pas l'empêcher, elle vous échappe des bras. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Maintenant, disons très brièvement, le démon n'étant pas une réalité corporelle, mais une réalité d'ordre spirituel, par permission divine, il faut pas que les gens qui m'écoutent aient la trouille, ça se fait pas comme ça, par permission divine, prend possession de l'esprit de la personne et lui fait faire des choses que, habituellement, elle ne serait pas capable de faire. Alors, là, tous les exorcistes pourraient vous expliquer ça.
Une explication encore plus simple serait peut-être de dire que c'était l'œuvre du démon, puisque trois personnes au service de Marthe ont vu le démon prendre la forme de Marthe Robin, pénétrer dans la cuisine et s'échapper rapidement vers la chambre de Marthe.
Alors, en utilisant la forme, Conrad a aussi essayé de marcher comme cette espèce de grosse araignée, entre guillemets, comme les témoins le voient. Et en fait, c'est tout à fait cette forme de corps qui marche sur le dos, voilà, pour se déplacer assez vite, dès qu'elle entend un bruit pour regagner la chambre. L'argument du diable est toujours un argument assez facile, je trouve, en spiritualité, et souvent le moins bon. Voilà. C'est l'argument un petit peu d'autorité qui de mauvaise foi, je pense.
Guillaume Cuchet, le débat autour de Marthe Robin est vif. Que dit-il de l'Église actuelle et de nos croyances ?
Oui, il est vif, c'est un vrai scandale, parce que c'est vrai qu'elle a vu énormément de monde, elle a donné sa bénédiction à toutes sortes d'initiatives qui ont été un petit peu identifiées au pontificat de Jean-Paul II, à la nouvelle évangélisation, et puis paf, ça pète comme ça tout à coup, ça fait désordre, ça fait très désordre. Ça dit peut-être un peu quelque chose d'un certain essoufflement de ce projet de nouvelle évangélisation identifié à la génération de Jean-Paul II, qui peine un peu pour d'autres raisons parmi nous, la crise des abus sexuels. On se rend compte, au fond, qu'il y a eu un certain nombre d'angles morts, de sujets pas traités ou mal traités. Et cette idée, au fond, qui a longtemps été au cœur du catholicisme, qu'il y a eu le Concile Vatican II entre 62 et 65, qui a modernisé en profondeur le catholicisme, on aurait dû toucher les bénéfices de cette modernisation au lendemain du Concile, dès les années 65. Ça n'est pas venu à la place, on a eu une crise, mais le pontificat de Jean-Paul II avait recadré, recentré, était revenu à l'essentiel, et on allait voir ce qu'on allait voir. C'est-à-dire que les bons effets attendus au milieu des années 60 allaient se produire, in fine, dans les années 90, 2000, moyennant ce recadrage, qui était peut-être le temps nécessaire pour ajuster la réception du Concile. La génération Jean-Paul II a beaucoup vécu là-dessus, sur cette idée, et aujourd'hui, force est de constater que la vague ne revient pas, et que les bénéfices du recadrage, non seulement ne sont pas là, mais qu'un certain nombre d'aspects un peu négligés dans ce pontificat et problématiques reviennent. Donc, moi, ça me paraît assez congruent avec cette crise un petit peu générale du projet de Jean-Paul II, vis-à-vis duquel elle s'est identifiée, finalement, ou auquel on l'a identifiée, plus exactement.
Joachim Boufflet, que reste-t-il donc de Marthe Robin, si l'on écarte le domaine du merveilleux ?
Il reste déjà une vie de grande malade. Et je crois que ça, c'est la clé du personnage. Marthe est une grande malade et elle a offert sa maladie, elle a essayé en tout cas d'offrir sa maladie pour être, par la maladie, plus unie à Dieu. Dans ce sens-là, on peut la considérer comme une mystique. Ce qu'il reste d'elle, c'est les foyers de charité, bien sûr, une œuvre assez importante, dont elle est l'inspiratrice, pas la fondatrice, mais l'inspiratrice, et qui rayonne actuellement sur le monde entier. Ce qui reste d'elle aussi, c'est certainement un courant de dévotion autour de sa personne, bien sûr, mais également une forme d'approche du mystère de l'Église, une forme d'approche avec laquelle tout le monde n'est pas nécessairement d'accord. assez traditionnelle et en même temps d'avant-garde. Elle a été très proche des communautés nouvelles, elle en a soutenu beaucoup, etc.
Le pape François a reconnu l'héroïcité des vertus de Marthe Roubin. Est-ce là l'invention d'une nouvelle sainteté, plus laïque, plus axée sur la souffrance ?
Non, pas nouvelle, et la laïque, ni laïque forcément non plus. Mais si vous savez, il y a une procédure à étapes pour faire un saint, reconnaître l'héroïcité des vertus du candidat, et à partir de là, il est considéré comme vénérable. Et puis ensuite, il y a deux étapes supplémentaires, qui est la béatification et la canonisation à proprement parler. Donc elle a franchi la première étape, en quelque sorte, même si toute la question, c'est évidemment de savoir pourquoi, si l'auteur du bouquin en question, Conrad de Mester, a envoyé ce rapport un petit peu incendiaire dans le cadre du procès de l'ordinaire, pourquoi c'est passé quand même. Mais je dirais, elle est bloquée en phase 1, quoi. C'est-à-dire qu'elle a eu l'héroïcité des vertus. Ses vertus paraissent un petit peu moins héroïques rétrospectivement que prévu. Elle n'ira probablement pas en phase 2 et 3. C'est pas exceptionnel, ça arrive. Hein. Beaucoup de procédures sont soit encalminées, ça n'avance plus parce qu'il y manque les miracles, il faut des miracles pour franchir les étapes. Donc soit les procédures sont je dirais, bloquées parce qu'il ne se passe plus rien, soit on découvre un problème dans le cadre de la procédure, et elle est là pour ça. Hein. Il y a un avocat du diable qui est là pour lever les lièvres. Donc ça arrive, les procédures ne vont pas forcément au bout dès lors qu'elles ont franchi une étape. Là, effectivement, il y a quand même un peu la question de savoir pourquoi ce rapport n'avait pas eu d'effet avant. Voilà, mais j'en sais rien.
Finalement, cette imposture a-t-elle réussi à faire le bien ?
J'en suis sûr. Je pense que les foyers de charité et...
Renaud Escandre, frère dominicain.
Le témoignage de Marthe a pu apporter quelque chose. Je pense que Dieu s'est servi même de cela. Sinon, c'est ce que nous disons du reste dans l'introduction de l'ouvrage, la note de l'éditeur. Je pense que véritablement, Dieu se sert de tout, et se sert même du mensonge, pour pouvoir annoncer l'évangile et la bonne nouvelle. Je pense que ça, ce n'est absolument pas pour moi à mettre en doute. Dieu s'est servi de cela pour pouvoir faire passer son message. Et donc, Marthe a pu faire du bien, comme les foyers de charité continuent, je pense, à faire du bien autour d'eux.
C'était Marthe Roubin, une sainte invention, avec Sophie Gay, postulatrice de la cause de béatification de Marthe Roubin, Pierre Vignon, prêtre, Joachim Boufflet et Guillaume Cuchet, historiens, Jean-François Colosimo et Renaud Escandre, des éditions du Cerf. Archivina, Hervé Evano, attachée d'émission, Sylvia Favre, coordinatrice, Christine Bernard, un documentaire d'Alexis Charniguet et François Test pour une histoire particulière.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous paraisserons ensemble, mais c'est une autre histoire.
Vous aimez ce podcast ? Avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.